La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère. L'attestation des choses qu'on ne voit pas.
J'ai cité son nom dans la prière, Jean-Jacques Carpin, que nous accueillons aujourd'hui. Bienvenue Jean-Jacques. Jean-Jacques est chef guide. Et comme toute investiture, comme tout engagement, c'est un chef guide qui préside à cette cérémonie. Jean-Jacques Carpin est membre de l'église de Créteil, une église que je connais bien puisque j'ai été pasteur de cette église il y a quelques années, enfin 2 ans, juste avant de venir ici. Voilà, sois le bienvenu Jean-Jacques et merci d'avoir répondu à notre invitation. Et on te laisse la parole maintenant.
Merci. Merci à votre pasteur. Bonjour à tous. Bonjour cher Gia. Oui, regardez, membre de d'Amarie-Lélis, toute cette carte d'identité. C'est une photo. La tenue Gia, c'est comme une carte d'identité. Essayez d'imaginer que vous êtes à la douane et sur votre passeport, votre carte d'identité, il n'y a pas de photo. Même avec votre bonne volonté, toutes vos explications, vous ne pouvez jamais passer la douane. Avec la tenue Gia complète, vous pouvez passer la douane et pouvez accéder au royaume des cieux. Les deux textes qui vous ont été lus ce matin se trouvent dans 1 Samuel chapitre 13, versets 5 et 6, et 1 Samuel chapitre 14, 6 à 8. Gardez ces deux textes juste ouverts, parce que vous en aurez besoin, nous en avons besoin. Quelle période stressante! Vous savez que chaque Israélite sait que les Philistins ne sont pas des gens qu'il faut taquiner. En fait, ils vivaient bien dans ce pays avant que les Israélites arrivent. Ce sont des guerriers, ce sont des pillards, des conquérants. Aucune nation n'est protégée quand ils sont là. Même les plus puissants Égyptiens ont dû faire face aux attaques des Philistins. Quand ils arrivent, laissez-moi vous dire, chers jeunes, chers amis, on n'échappe pas à la guerre. Et dans ces moments-là, rien ne peut nous aider, ni les réflexions intelligentes, ni les gens sympas. Ils sont en chemin et vous pouvez vous attendre au pire et peut-être prier pour que la paix revienne un jour dans le pays. Mais cette fois-ci, remarquez bien que la faute, elle vient d'Israël. Pourquoi se sont-ils vantés quand les troupes de Saül avaient vaincu ou avaient réussi avec un tout petit nombre les gardes philistins? Et ils se sont vantés. Est-ce que les hommes de Saül, pourquoi ont-ils célébré ce succès avec tant d'éclat pour, je dirais, une petite étape dans cette guerre? Pourquoi se sont-ils moqués des philistins comme si c'était eux les héros? Oh, nous sommes peut-être heureux de la paix qui règne ici à Damary-les-Lys, dans cette commune. Nous sommes peut-être heureux de la paix qui règne dans notre pays, la France, sans s'inquiéter que notre bus scolaire va être la cible d'une bombe à tout instant. Peux-tu te réjouir d'un stage obtenu ou d'un emploi sans avoir peur de le perdre le lendemain? Peux-tu être fier de commencer peut-être une relation suivie avec un garçon ou une fille que tu as rencontré ou commencer une vraie vie de famille, heureuse sans penser sans cesse que cet amour pourrait finir? Laissez-moi vous dire qu'il y aura des politiciens ou des hommes qui promettront la victoire sur le chômage, davantage de stages dans des brefs délais pour les diplômés, des politiques favorables à la famille, des mesures plus fortes contre le terrorisme et plus de sécurité, plus de protection pour chaque homme, chaque femme, chaque jeune. Nous les mettrons peut-être un jour sur un trône, nous leur ferons peut-être la fête. Mais laissez-moi vous dire ce matin, ils ne parviendront jamais, jamais à régler le problème réel. Ils seront nos héros pour quelque temps, je dirais bien pour quelque temps seulement. Et bientôt, ils seront rattrapés par les réalités de la vie. Ils vivront alors la terreur, la peur, le chômage, le divorce, l'effondrement des systèmes sociaux, même la brutalité, la violence. Notre société doit vivre des temps qui ressemblent à ceux que Saül a vécu avant l'attaque des Philistins. Ils sont submergés par la peur inexplicable et soudaine et ne savent pas quoi faire. Les gens se rendent compte, comme dans 1 Samuel chapitre 13, verset 6, qu'ils traversent une période de danger et d'affliction, qu'ils se cachent dans l'enfer qu'ils ont fabriqué, ou dans des caves ou dans des fossés. Et certains peut-être même essaient de s'enfuir dans le monde aujourd'hui de la drogue, de la prostitution, dans les abus de toutes sortes, c'est-à-dire tout ou rien. Et à ce moment précis, un jeune homme se lève. Un jeune homme que je dirais que c'est un jeune J.A. qui n'a pas encore joué un rôle important social, un rôle important politique ou militaire de tout premier plan dans l'histoire de ce peuple d'Israël, mais il veut changer les choses. Comment Jonathan est-il capable de se lever contre les Philistins au milieu de ce climat de peur? Quelle était sa motivation? Quelle était la motivation des J.A. ce matin pour mettre cette belle tenue bleue et pour ceux qui ont leur foulard avec toute leur distinction, leur bague? D'ailleurs, venez cet après-midi, vous saurez comment ils ont pu avoir tout cela. Quelle était la motivation de Jonathan? D'où venait cette force d'agir sans peur des conséquences catastrophiques? J'ai presque envie de dire, est-ce que c'est normal de jouer les héros dans des situations pareilles? Est-ce que c'est normal pour ce jeune J.A. qui n'a que petit CV? Et je dirais que beaucoup ici ce matin ont, comme ce jeune homme, envie de s'engager pour Dieu. D'ailleurs, j'ai presque envie de dire à quoi rime ce show de Jonathan qui prend avec lui un ou des gars contre une armée composée de 600 Philistins montés sous des chevaux. Jonathan doit faire face à une situation particulière. Lui et son père possèdent des armes. Mais Jonathan et son père Saül, c'est eux seulement qui doivent mobiliser le peuple d'Israël pour aller combattre. Et remarquez bien que lui, il part avec ses compagnons d'armes sans les trompettes. Et vous savez comment les trompettes étaient importantes à cette époque-là pour rassembler le peuple, pour leur donner du courage. Jonathan marche avec humilité, le courage de servir Dieu, parce qu'il sait que ce ne sera pas lui qui combattra, mais c'est Dieu qui agira. Donc Jonathan prend les armes. C'est le nom générique que Paul utilise dans Éphésiens 6, versets 13 à 17. Les armes du J.A., les armes du chrétien, dans le Nouveau Testament. La vérité, la justice, la paix, la foi, le salut, l'esprit, la parole de Dieu. Ce sont ces éléments-là que Jonathan font confiance. Et c'est pourquoi il va remporter la victoire. Et ce matin, j'ai presque envie de dire, qu'est-ce qu'il fait avancer chaque J.A. avec ses armes? C'est ce qui leur permet de résister au diable et à toutes les armées de ce monde. On ne peut pas trouver une seule phrase qui dise que Jonathan était absolument convaincu que Dieu agirait pour lui. Notez ses paroles. Lorsqu'il dit, Éphésiens 14, verset 6, 5 à 7. Peut-être, qu'est-ce qu'il dit? Peut-être que l'Éternel agira pour nous. Voilà un jeune homme qui part en guerre et il dit peut-être que l'Éternel agira pour nous. Indique qu'il ne savait pas lui-même que si Dieu allait agir. Alors parfois, les jeunes d'aujourd'hui veulent bien s'engager dans l'Église. Ils veulent bien s'engager dans un programme J.A., dans un programme d'évangélisation, des programmes de l'EDS. Et ils se demandent pourquoi m'engager si dans mon église locale, je ne vois personne qui soit prêt à s'engager pour Dieu. Pouvez-vous faire confiance à un Dieu qui est aussi imprévisible? Pouvez-vous vous engager avec un Dieu qui réagira selon son humeur du moment? Mais cette fois-là, c'est cette fois-là que Jonathan a à nous proposer ce matin. Quoi qu'il en soit, c'est sa profession de foi qui fait retourner la situation en faveur du peuple d'Israël. Dans cette guerre contre les Philistins, cette profession de foi a amené un jeune homme et à ses compagnons à mobiliser à eux seuls l'armée du Dieu céleste et à se battre jusqu'à ce que l'ennemi soit repoussé aux frontières du pays. Ce jeune J.A., je pourrais dire, a compris, un homme forme de nombreux projets, mais c'est le dessein de Dieu qui se réalise. Proverbe 19, verset 21. Un homme forme de nombreux projets, mais c'est le dessein de Dieu qui se réalise. Vous savez, ce jeune J.A. connaît ses limites. Il sait que sa connaissance et ses talents sont imparfaits. Il est certain de remporter la victoire grâce à une aide extérieure. Il sait qu'il n'a aucune chance de réussir sans Dieu. Autre message de ce jeune ce matin. Il sait et croit fermement que Dieu est capable d'agir. Il croit et sait fermement que Dieu est capable d'agir. Il ne sait pas si Dieu le sauvera des circonstances actuelles ou résoudra les problèmes, mais il imagine que Dieu le fera. Il ne doute pas que Dieu puisse le faire. Il en témoigne lorsqu'il dit, écoutez bien, « Rien ne l'empêche de sauver par un petit nombre aussi bien que par un grand. » Rien ne l'empêche de sauver par un petit nombre aussi bien que par un grand. Ce témoignage est l'élément le plus frappant qui pousse Jonathan à agir. Il croit à la puissance extraordinaire de la vie, extraordinaire de Dieu. Vous savez la définition de la foi dans Hébreux 11? La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Ce matin, dans l'école du sabbat des adultes, déjà par la foi, être dans le royaume des cieux. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Pierre jette son filet. Il n'avait rien pris de toute la nuit. Pourtant, il était un pécheur. Mais il croyait par-dessus tout à l'autorité de Jésus. Amen. Ceux qui défendent leur foi seront capables de motiver leurs compagnons dans le monde et le monde pour qu'ils se lèvent et qu'ils combattent les Philistins de leur époque, car ils ne doutent pas que Dieu les accompagnera. Troisième message de ce jeune homme, Jonathan. Il ne se confie pas uniquement dans ses connaissances et sa foi. Il s'engage auprès de Dieu dont il vient de parler et il se lève. Et tout à l'heure, vous allez voir que des bourgeons, des tisons, des exploits vont se lever, ils vont s'engager. Il vient de parler et il se lève. Remarquez bien que Jonathan ne se transforme pas en théoricien théologique, satisfait d'une analyse approfondie des capacités de Dieu. Il ne présente pas cette théorie à ses deux compagnons qui l'accompagnent. Et pourtant, cela aurait été une occasion en or. Trouver un endroit bien confortable dans une grotte et de dire, « Oh, je connais un Dieu super. Il peut absolument tout faire. Tout. Et il va certainement trouver une idée extraordinaire pour nous sortir de là. Il suffit d'être patient. » Cela aurait été facile de tout laisser tomber entre les mains de Dieu et de le laisser agir en regardant au loin. Et cela aurait été facile peut-être pour nous de regarder ce qui se passe dans le monde, les mains dans les poches, et de voir un groupe de jeunes ou d'adultes de mon église mourir et de dire simplement, Dieu va trouver une solution, une bonne idée pour les sortir de là. Jonathan s'est activement impliqué dans une situation dangereuse pour aider Dieu et a dessiné le destin du monde. Et ce matin, Sergia de Damary-les-Lys, nous ne voulons pas avoir les mains dans les poches. Vous allez voir qu'ils vont se lever. Ils ont, comme vous et moi, appris quelque chose, Sergia. Ils ont appris qu'ils n'ont pas besoin d'être de grande taille. Ils n'ont pas besoin d'avoir des diplômes universitaires. Ils n'ont pas besoin d'avoir une armée de 300 chariots, 600 conducteurs de chars et des soldats aussi nombreux que le sable de la mer. Les jihad de Damarilelli sont compris. C'est de l'Esprit de Dieu qu'ils ont besoin pour pouvoir s'engager avec Jésus-Christ. Son Esprit aidera chaque jeune à reconnaître sa véritable situation dans cette guerre pour la vie. Cela leur donnera la force de reconnaître la puissance infinie de Dieu et cela les encouragera à se lever pour servir Dieu, c'est-à-dire à prendre parti, à former activement leur vie normale dans ce monde troublé pour Dieu. Vous savez, chers J.A., chers jeunes, membres de Damarilelis, amis visiteurs, quand Dieu prend quelqu'un en charge, il ne se trompe jamais. Quand il appelle quelqu'un, il appelle les gens dont il a besoin pour leur donner une mission pour changer le monde. Dieu a décidé d'appeler Moïse, Noé, Jonathan, Daniel, David, Ruth, Naomi, qui se trouvent tous dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il a décidé d'appeler des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, vous et moi. C'est lui qui a décidé d'appeler les jeunes JIA ce matin. C'est lui qui a décidé d'appeler les membres de cette église de Damari, tout le monde, son église. Et ensuite, vous allez voir que Dieu va les prendre en charge. Appelez mon église, ton église, prenne de gens. Il a décidé de t'appeler, toi qui es assis sur les bancs de cette église, d'appeler aussi les autres personnes. Il croit fermement en eux parce qu'il n'est pas un Dieu qui tente des expériences incertaines. C'est pourquoi dans quelques instants, vous aurez des bourgeons, des tisons, des explos qui vont se lever pour s'engager avec Dieu. Ils vont vous réciter leur but, ensuite leur promesse. Vous savez, ce n'est pas chose facile dans le monde d'aujourd'hui d'attirer les jeunes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont compris que Dieu ne joue pas au dé avec eux. Albert Einstein disait, Dieu ne joue pas au dé. Dieu veut que nous prenions ce matin, aujourd'hui, conscience de la vision qu'il a pour son peuple. Comme ce jeune JIA qui s'est engagé, Jonathan, il a compris la vision que Dieu avait pour le peuple d'Israël, changer le monde. Et Dieu veut ce matin que nous prenions conscience de la vision qu'il a pour son peuple, qu'il a pour les JIA de Damari, c'est-à-dire simplement changer le monde en attendant la glorieuse espérance, celle de vivre l'éternité avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Please. Reste-t-il